Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Et rebonjour à tous, 15h42, nous sommes en direct du Salon MIPIM. Sylvain Lévy-Valency m'a laissé la main pour introduire cet échange et vous présenter notre invité, qui est François Goupil de Bouillé. Bonjour François.
Frédéric, pardon.
Bonjour Frédéric, excusez-moi.
C'était Frédéric Troche et François Bouillé.
Non, c'est l'émotion, voilà. Sylvain, vous m'avez laissé la parole, voilà, beaucoup d'émotions. Bon, merci beaucoup en tout cas Frédéric d'être avec nous.
Merci.
Merci beaucoup de présenter l'ADI, l'Association des directeurs immobiliers que vous présidez. Et merci Sylvain d'être avec nous aussi.
Vous pouvez m'appeler Georges.
Georges, très bien. Merci Georges. Alors Frédéric, si on parle de l'ADI, comment est-ce qu'on peut présenter l'ADI, une petite histoire, courte histoire et ses missions?
Alors l'ADI a 26 ans, elle est née de la volonté de quelques directeurs immobiliers de se réunir pour... Mieux se connaître les uns les autres. Et aujourd'hui, c'est devenu l'association professionnelle qui représente l'ensemble des utilisateurs d'immobilier professionnel. On est la seule de pouvoir représenter l'ensemble de ces métiers, des métiers d'utilisateurs d'immobilier professionnel, que ce soit dans des entreprises publiques, dans des entreprises privées, dans des collectivités. Nous avons aujourd'hui 400 membres, 280 entreprises, et 10% de nos adhérents viennent des collectivités, des établissements publics, et c'est vraiment notre volonté. Donc aujourd'hui, grosso modo, sur un peu plus d'un milliard de mètres carrés professionnels en France, l'ADI a 330 millions de mètres carrés à travers ses adhérents. Donc on peut considérer qu'on a une belle représentation de cet immobilier.
Toute classe d'actifs confondues.
Toute classe d'actifs, que ce soit du tertiaire.
D'accord. Au début, c'était un peu plus tertiaire, mais ça s'est élargi de plus en plus vers le logement.
Voilà. Ça s'est élargi avec l'élargissement de nos adhérents. Clair qu'une entreprise, elle a en effet de l'immobilier de bureau. C'est l'immobilier emblématique puisque c'est le siège, mais c'est surtout et essentiellement de l'immobilier tertiaire de nature d'activité, voire de l'immobilier industriel, voire même de l'immobilier primaire, puisque on a aussi des entreprises qui ont des bâtiments agricoles, forestiers, de cet ordre-là.
C'est intéressant ce que ça donne à l'ADI. Une vision, à la fois polycentrale, mais aussi multipolaire sur les activités immobilières et les actifs immobiliers, qui vous permet de faire une bonne photographie de la ville.
On a en effet tout type d'immobilier.
Toute la matière.
Et on peut se retrouver en effet en pleine campagne, parce que c'est de l'immobilier type carrière ou type extraction, mais on est aussi au cœur des villes. Et on a de l'immobilier, même les derniers kilomètres de logistique. On a, à travers, par exemple, la RATP ou Sogaris, on a ces adhérents qui ont ce type d'immobilier. On a donc toute la problématique de l'immobilier avec les cycles qui sont différents. Cycle du bureau, aujourd'hui, on pourra en reparler, il n'est pas au mieux, mais le cycle d'activité, il l'est avec la réindustrialisation, avec le ZAN. On a eu la flambée de la logistique dans les années 80-90. Tous ces éléments-là, on l'a, et on les a en tant qu'utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a le tropisme, on est véritablement le négatif de toute la profession immobilière qui voit dans l'immobilier un objet vendable, tout ça, alors que nous sommes de l'autre côté, et pour nous, c'est un bien, c'est un actif qui permet de produire.
Alors, comment est-ce que vous êtes organisé pour traiter toutes ces classes d'actifs? Est-ce que vous traitez tout d'un coup? Est-ce que vous êtes organisé par verticale? Est-ce que vous suivez les cycles pendant l'année?
Au sein de l'association, on a mis en place, appelez ça comme vous voulez, des commissions, des groupes de travail, des communautés, et qui sont selon les différentes classes d'actifs, comme vous voulez dire, et les différentes problématiques. On en a aujourd'hui 6 qui sont ouverts et qui nous permettent de produire aussi notre connaissance et notre volonté d'imprimer quelque chose sur ces classes. On a évidemment le tertiaire. On a évidemment une réflexion sur le tertiaire, on a une réflexion sur l'industriel et le rapport avec la loi verte. Et souvenez-vous des 12 propositions qu'on avait faites à travers un manifeste il y a 2 ans. On a évidemment l'immobilier professionnel dans le territoire et justement son rapport avec le zéro artificialisation nette. On a évidemment la digitalisation, non seulement des directions, mais aussi une réflexion sur la digitalisation des bâtiments. Et puis surtout le rapport qu'on a aussi avec les investisseurs. On a aujourd'hui un besoin des investisseurs. C'est un de nos acteurs majeurs dans la constitution de nos actifs. ils le sont sur les bureaux tertiaires, ils le sont sur la logistique. On aimerait bien qu'ils investiguent aussi l'immobilier industriel, les locaux d'activité. Et j'ai oublié quand même la commission qui aujourd'hui produit le plus chez nous, qui est la commission RSE, et qui a énormément travaillé, qui est énormément impliquée aujourd'hui dans le décret tertiaire.
On l'a vu la trajectoire neutralité carbone qui est fixée pour 2050, elle est très ambitieuse.
Elle est...
Objectivement, vous pensez qu'on y serait ou pas ? Parce que on a l'impression qu'on a un calendrier contraint. En même temps, pourquoi pas, hein, y a pas de souci. L'introduction du décret tertiaire, de la plateforme Opérate qui permet aujourd'hui de traiter tout cela. Mais quand on voit les enjeux, on se dit waouh, c'est quand même.
Je ne vais pas me contredire aujourd'hui. Nous, à l'ADI, on aimerait faire comprendre à tout le monde que ce décret est totalement logique, il a sa logique et il est indispensable. Sauf que pour les entreprises, on a un mur de l'investissement qui se présente devant nous.
Vous êtes d'accord.
Et qu'il va falloir financer. On devra le financer, mais il faut que toute la nation se rende bien compte que c'est un énorme investissement qui va en plus de tous les autres investissements qui sont à prévoir, non seulement pour produire mieux, produire d'autres, de nouveaux produits, ainsi de suite, mais on a aussi cet investissement qu'il va falloir financer et qui est devant nous, qui est indispensable, mais qu'il va falloir le prioriser.
Comment ?
Je pense aujourd'hui que il y avait de l'argent pour l'immobilier tertiaire, il y a eu de l'argent pour l'immobilier logistique, ainsi de suite. Cet argent ne pourra pas se diriger vers ces produits-là, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est en train de... J'ai pas envie d'utiliser ce terme-là, mais devant nous, on a quand même une contrainte de taux, une contrainte de prix, une contrainte d'usage. On va avoir cette contrainte devant nous, qui est cette contrainte environnementale. Il va falloir qu'on les passe tous. Et on voit bien que la contrainte d'usage fait qu'il y aura peut-être moins besoin d'argent sur le tertiaire bureau, sur le tertiaire logistique. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre justement sur ces éléments que sont la transition énergétique dans des bâtiments tertiaires qui sont pérennes et qu'il va falloir pérenniser ? Alors, donc c'est véritablement la réflexion qu'il faut avoir aujourd'hui.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Affecter des moyens suffisants pour pouvoir aborder, de toute façon... C'est terminé. On est passé de l'autre côté. Donc, ces investissements, il faudra les faire.
Il faudra les faire.
À défaut, de toute façon, ces bâtiments deviennent obsolètes.
Bah, sinon, vous allez avoir des friches devant vous.
Voilà.
On va subir des friches.
Alors justement, est-ce qu'on n'est pas passé des friches industrielles aux friches de bureaux dans le futur ?
Friches tertiaires, on a commencé à en parler il y a 3 ans. On voit aujourd'hui qu'il y a des bâtiments de bureaux qui n'ont pas d'avenir. Mais il n'y a pas que le bureau. Il n'y a pas que le bureau devant nous. Vous avez aussi des bâtiments d'activité qui ne passeront pas. Ah oui, le décret tertiaire.
Oui, c'est important ce que vous dites, parce que souvent...
On pense bureau, mais bureau, c'est 10% du monde tertiaire.
C'est très important de rappeler à ceux qui nous écoutent la différence entre le bureau et les immeubles d'activité.
Voilà, et les immeubles d'activité, eux aussi, sont dans Opérate. Pas tous.
Les immeubles d'activité sont souvent en centre-ville ou pas ?
Ça dépend, vous en avez eu. Merveilleux lofts qui ont été transformés à la Belle Époque étaient bien des locaux d'activité qui étaient dans les centres-villes. C'est vrai que c'est plutôt en première ou deuxième périphérie. Mais vous en avez toujours. Vous avez toujours des bâtiments de commerce en ville qui ne sont pas toujours au pied d'immeubles d'habitation, au pied d'immeubles de bureaux. Vous en avez. Ces immeubles-là aussi vont devoir passer le décret d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, tout cet accompagnement, on le fait, et on a, pour ce faire, en janvier, fini le cycle des revues sur le dispositif éco-énergie tertiaire. Après avoir abordé le décret, après avoir abordé qu'est-ce qu'elles étaient les petites victoires faciles qu'on pouvait faire, après avoir abordé, souvenez-vous, on l'a fait ensemble, sur tout ce qui était démarche des occupants pour pouvoir atteindre les premières économies d'énergie du style « c'est pas Versailles aujourd'hui, on le fait aussi dans les bureaux ». Ça aussi, souvenez-vous des 19 degrés il y a 2 ans qu'on a pu faire passer dans les bureaux grâce à ça. Ça, ce sont des économies. Là maintenant, le dernier volet que l'ADI a présenté en janvier, c'est sur les travaux à faire, des travaux de fond sur les bâtiments.
Ça, c'est un ouvrage
toutes ces données, vous les possédez aujourd'hui ?
On les possède et ils ont été...
Académique, vous êtes capable aujourd'hui, non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est pour ça que d'ailleurs vous devriez être partout, parce que vous êtes capable de restituer, non, mais c'est intéressant, d'un point de vue systémique, vous êtes capable de restituer d'un point de vue académique ce qui est en train de se transformer. Alors, j'aime bien les termes un peu alambiqués, mais je pense que ce que vous opérez, vous, aujourd'hui, c'est véritablement une transformation anthropologique du bureau, du de l'usage.
Mais de tous les usages.
Et de tous les usages, voilà, de tous les usages. Si on devait aujourd'hui prendre la photographie en disant, alors, c'est vrai qu'on est quand même, bon, moi j'utilise le terme de permacrise ou une crise chasseuse, on n'a quand même pas été épargné par un exécutif et un gouvernement qui franchement n'est pas hyper branché immobilier. Enfin bon, soit dit en passant.
Il n'y a pas de ministère de l'immobilier.
Voilà, on va dire les choses comme ça. Et le gouvernement paiera le prix face aux Français, puisqu'on n'a jamais atteint un niveau de dégradation sur le logement comme on l'a atteint aujourd'hui. C'est quelque chose qui remonte à l'ADI, parce que souvent, quand on pense à l'ADI, on se dit, oui, bon, l'ADI, c'est quand même... C'est le bureau, c'est le commerce, c'est le... Non, il y a aussi
c'est
beaucoup...
essentiellement les locaux d'activité.
Aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de logements. Vous ne fermez pas la porte au logement.
On ne la ferme pas, mais c'est vrai qu'on est plutôt positionné sur l'immobilier professionnel.
Ouais.
Mais c'est vrai que l'immeuble de bureau demain, est-ce qu'il sera, il sera dans immeuble mixte ?
Bah oui.
Déjà,
bah oui.
Est-ce que les logements opérés, c'est quoi ? C'est du professionnel ou c'est du résidentiel ? On peut se poser la question. Et aujourd'hui, on parlait de friche tertiaire, les bureaux qu'on va transformer.
C'est de la mixité d'usage.
Il y a de la mixité d'usage qui va derrière. Donc, il va y avoir certainement une mixité. Et puis, il y a plein d'entreprises qui ont des logements, qui louent, et dont c'est le cœur de leur métier.
De plus en plus d'entreprises,
ou en tout cas se préoccupent de la partie résidentielle, parce qu'eux-mêmes, où ils vont placer leurs locaux d'activité, où ils vont placer leurs locaux de bureau, où ils vont placer leurs locaux logistiques, c'est en fonction du résidentiel. Donc, il y a une mixité qui se fait de toutes les façons dans les décisions. Mais c'est clairement un actif. Ce n'est pas l'actif principal sur lequel travaille l'ADI.
Juste avant de donner la parole à Grégoire, aussi, croyez, on a les élus locaux qui ne veulent plus de logistique, qui disent que ça dénature, qui disent que ça crée très peu d'emplois. Est-ce que finalement, sans la puissance politique locale, il ne va pas y avoir un problème pour la livraison du dernier kilomètre, pour la transformation de certains actifs ? Ils n'en veulent pas. Ils vous le disent.
Mais le problème, c'est que c'est quand même leurs électeurs qui vont le vouloir. Parce que leurs électeurs aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils ne veulent plus de commerce. Ils ont toujours besoin de commerce. Mais de plus en plus, on se fait livrer. Et on a besoin...
Non mais Frédéric, ça vous l'avez déjà entendu, les élus locaux qui ne veulent plus de logistique.
Tout comme des élus locaux aujourd'hui qui nous disent est-ce que vous pouvez mettre des bureaux chez nous ? Bah non, je veux dire, des bureaux aujourd'hui, c'est clair qu'il va falloir... se positionner sur nos bureaux et toutes les communes n'auront pas forcément des bureaux.
Je suis d'accord. Il y a le fantasme de l'élu. Non, mais c'est vrai. Ce que vous dites est très juste. Il y a le fantasme de l'élu de dire j'ai mes immeubles de bureaux, etc. Et quand il s'agit, par exemple, de quelque chose de très... Parce que ce que vous dites est quand même très juste, et j'aimerais bien qu'on le rappelle, c'est que les habitudes de consommation et d'achat font que la logistique va devenir le tiers absolu et qu'on est très loin du chiffre dont qu'il faudrait avoir, en fait. On va avoir un vrai sujet là-dessus.
Dans les grosses plateformes, on va commencer à arriver à maturité, mais c'est les petites plateformes intermédiaires qu'il va falloir pouvoir alimenter.
Juste une question, les parkings en reconversion pour le dernier kilomètre, pour vous, c'est quelque chose, c'est une piste ?
C'est une piste à partir du moment où ces parkings ne sont pas pris d'assaut, ce qui est de plus en plus le cas dans les cœurs de ville. Pas dans les premières et deuxièmes couronnes.
Je ne parle pas des cœurs de ville.
Voilà. Dans le cœur de ville, oui, il va falloir pouvoir les utiliser. Vous avez tout à fait raison.
Dernière question, Grégoire.
Je vous écoute sur le rôle du directeur immobilier. Il y a 26 ans, alors moi, je me souviens avoir modestement commencé ma carrière il y a 10 ans chez un aménageur de bureau. Mm-hmm. Et il y a 10 ans encore, le directeur immobilier était peut-être le principal interlocuteur dans l'entreprise pour parler d'immobilier. Au fur et à mesure des années, d'autres fonctions dans l'entreprise ont absorber ce terme de l'immobilier, je pense au DRH, aux services généraux. Donc, quelle évolution vous voyez de ce métier du directeur immobilier et du coup de votre rôle dans l'ADI ?
Je dirais en 26 ans, j'ai cette chance-là, puisque l'ADI a 26 ans et moi j'ai commencé il y a 26 ans ce métier de directeur immobilier. Donc j'ai vu cette évolution. Avant ces 26 ans, avant... L'immobilier était une aménité dans l'entreprise et qui était très diffuse. Très il y avait les travaux neufs à l'ingénierie, dans l'industrie, ainsi de suite. Il y avait des services généraux un peu partout. Dans les années 90, je veux dire autour des années 90, les premiers Thomson, pour ceux qui s'en souviennent, Thomson CSF, avait créé ses directeurs immobiliers, c'était dans les années 80, mais surtout dans les 90, on était un gestionnaire d'actifs. Et on valorisait l'actif, en grosso modo, C'était la grande époque des sell and lease back. C'était la grande époque où les investisseurs allaient sur le marché de l'immobilier, achetaient des bureaux et les entreprises qui étaient propriétaires de leurs bureaux les vendaient. Je caricature, mais c'était ça. Beaucoup de SICOMI qu'on a créés à l'époque pour financer le crédit bail, ainsi de suite. Un actif immobilier qui était à gérer. C'était un gestionnaire d'actifs. Depuis les années 2000, je veux dire 2000-2010, le directeur immobilier, c'est un business partner qui a, comme vous le dites, beaucoup d'interlocuteurs dans la maison et sur toutes les activités de l'entreprise. Et on est là aujourd'hui pour leur donner le strict nécessaire en termes de surface immobilière, d'avoir l'empreinte immobilière la plus light possible, avec un maximum de satisfaction derrière et surtout la garantie que ce qu'ils utilisent est dans un état de sécurité, de maturité et de respect de l'environnement au top.
Est-ce que vous diriez qu'il y a plus d'importance maintenant est-ce que l'immobilier a plus de place dans la vie de l'entreprise ?
A beaucoup plus de place parce qu'aujourd'hui, c'est un vecteur d'image pour l'entreprise. On est dans un marché de l'offre sur la partie RH. Donc, si on veut attirer des talents, ce n'est pas l'immobilier
c'est
qui va les attirer.
C'est une partie importante de la marque employeur.
Mais ça peut être un repoussoir si ce n'est pas comme on veut. C'est comme le télétravail. Vous n'allez pas recruter si vous ne mettez pas du télétravail là où c'est disponible. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont l'utiliser, le télétravail. Mais on le sait, l'immobilier, c'est pareil. C'est un vecteur et ça doit contribuer pour les managers aujourd'hui à retenir leurs talents et à permettre une mixité, une sociabilité dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, ça va être véritablement le fond. Donc c'est vrai que ce n'est pas une direction stratégique qui va fixer le cap de l'entreprise, mais c'est un contributeur indispensable pour la sociabilité et l'acceptabilité dans l'entreprise. Et c'est un vecteur important, ne serait-ce que dans l'environnement. L'immobilier est un vecteur très, très important dans les annexes d'une entreprise, dans le rapport de l'entreprise. Le verdissement de l'entreprise peut se faire par l'immobilier, c'est important.
Et d'ailleurs, les règlements taxonomiques européens vous aident énormément.
Oui.
Et que de toute façon, à un certain niveau, effectivement, il n'y a plus de débat maintenant. Pour lever des fonds à l'échelle européenne ou même à l'échelle mondiale, il faut verdir, faire ce qu'on appelle de la green value.
Exactement. Et l'immobilier.
De créer de la valeur verte.
Et l'immobilier est un contributeur, vecteur, un très très gros vecteur là-dedans pour pouvoir justement atteindre ses objectifs et permettre le financement.
D'ailleurs, je prends l'exemple du temps où Mika Brunel officiait à la tête de Gecina, la conversion du portefeuille obligataire en green bonds, qui a été une amorce très important. On parle de plus de 5 milliards de conversions, donc il n'y a plus de débat autour. Merci beaucoup.
Frédéric, il y avait juste beaucoup. Aussi, en avril, je voulais juste vous dire qu'en avril, il y aura un second ouvrage justement sur les usages, sur le bureau.
Il sera publié, il sera rendu public.
Il sera rendu public en avril.
En avril.
En avril. Voilà.
Merci pour nous.
Je fais du teasing.
Qu'on a la primeur de la sortie ou pas ?
Du titre ?
C'est le bureau idéal.
Voilà, parfait. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Goupil de Bouillet.
On organisera d'ailleurs si vous êtes d'accord,
une petite promotion sur Radio.
On fera une émission spéciale autour de ce bouquin qu'on va recevoir avec une jolie dédicace du président de l'ADI. Merci.
Merci beaucoup.
Merci infiniment, Frédéric Goupil de Bouillet. Merci beaucoup, Sylvain Lévy-Valency. Et merci à tous et très bon MIPIM.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.